franceinter.fr.
Oui, c'est par rapport à MJ. J'écoute l'émission là-bas si j'y suis depuis environ 2 ans, mais je sais toujours pas ce que ça veut dire AMG. Sinon, c'est bien comme émission, hein. Ça, pour les travailleurs, c'est bon, hein. On s'émancipe grâce à ça. Ça donne de l'air frais dans les oreilles. Merci, au revoir.
Bonjour, les amis. Je voulais vous souhaiter une bonne année. Et je trouve que pour la reprise, vous avez fait fort. On ne l'aurait pas su autrement. Cohen, il n'avait pas vu venir la crise en 2008. Et puis Alexandre Adler, lui, il avait appelé à voter Sarkozy en 2007. Hein. Donc, vous avez fait très fort et j'attends avec impatience l'émission de demain. Je embrasse toute l'équipe et je vous remercie. Noël de Besançon, au revoir.
Ah, des bonnes résolutions pour 2012 ? Mais moi, j'en ai encore une, ouais. Comme pour 2011, comme pour 2010, je vais toujours pas payer mes huissiers. Allez, au revoir.
Quand le toubib prescrit des oligo-éléments, il explique que ce sont des éléments minéraux présents en très petite quantité dans l'organisme, du grec oligos qui signifie peu nombreux. Oligarchie est un mot qui devrait devenir familier à tous si nous voulons mieux comprendre ce qui nous arrive. L'oligarchie financière, c'est donc un très petit nombre oligos de financiers qui commandent, du grec arché, et qui gouverne de fait la planète. Mais oligarchie reste un mot abstrait. Et c'est tout le talent de François Ruffin d'attirer dans la lumière des belles personnes qui d'ordinaire préfèrent la discrétion. Avec François, l'oligarchie est incarnée. Elle a le visage des Ladrés de la Charrière, des Naouri, des Arnaud, Pébereau et Bébéard.
Paradoxe, Restos du Cœur et autres associations réclament à corps et à cri de quoi nourrir les gens, et réclament aux supermarchés qui eux-mêmes mettent en place des tas de caisses automatiques pour virer un maximum de personnes. Paradoxe, non? Allez, c'était Emmanuel de Salon de Provence. Au revoir.
Je vous félicite pour le reportage aux finances sur monsieur Ladrés de la Charrière. Parce que c'est un homme de mystère, de misère aussi, et de colère. Voilà. J'ai entendu Madame Martine Aubry, M. Drey, M. Barnier se révolter contre des gens qui connaissent bien. C'est un des mécènes les plus importants quand tu es gens d'honneur, membre consultatif de la Banque de France. Il y en a une page entière, Monsieur le Président de la FIMALAC. Voilà, ça m'a touché et je félicite la petite jeune Leïla pour son courage et je vous dis à bientôt. Au revoir.
Eh ben, on continue aujourd'hui, comme ça vous a plu. Merci pour tous ces messages. Chers AMG, économistes de garde, on continue aujourd'hui. C'est une vieille histoire, hein, celle de la proximité entre finalement la science, la connaissance, et puis les puissances d'argent. C'est une vieille histoire. Déjà, Jules Vallès parlait du lien entre l'encre de l'écrivain, et la bourse. C'est une vieille histoire. Une histoire dangereuse, une liaison dangereuse, qui a toujours été soupçonnée, parfois même combattue, et avec un certain succès, la science passant sous le contrôle public, avec des soutiens publics, justement pour échapper à l'empire de la cupidité. Or, vous savez l'époque que nous vivons, où l'argent domine tout, la finance domine tout, et la cupidité aussi, dans un domaine extrêmement important, devenu tellement important, celui de l'économie. Eh bien, on trouve ces liens entre ceux qui nous conseillent à longueur de journée, à longueur d'émission, à longueur de plateau, et qui dissimulent parfois, derrière leur titre universitaire ronflant et intimidant, les liens qu'ils peuvent avoir avec les milieux financiers, les milieux de la banque, et qui ont évidemment, qui peuvent être tentés de, d'illustrer, comme nous le faisons tous, le fait que nous finissons toujours par penser par rapport à nos intérêts, malgré tout. Voilà dans quel sens nous allons aujourd'hui avec nos économistes de garde et le deuxième volet de ce reportage de François Ruffin. Auparavant, encore quelques messages parmi ceux que vous avez laissés dans la boîte vocale au 01 56 40 37 37.
L'antiquité gréco-latine portait un regard objectif et apaisé sur la sortie volontaire du banquet de la vie. On en est très loin aujourd'hui, en particulier en France, où la loi Leonetti se contente de prôner le laisser-mourir. Rien à voir avec le choix d'une mort douce, libre et volontaire, pour reprendre le titre du manifeste de Christian Dupont. Nicole et Simone de l'ADMD, Association pour le droit de mourir dans la dignité, viendront débattre avec nous au repère des Amis de la Bastille-Gissuy de Limoges, mercredi 4 janvier à 18h30, au bar Les Folies, 14 place des Jacobins.
Merci, merci. Grâce à la diffusion du message de Paul, agriculteur dans le Gers, j'ai pu écouter l'enregistrement de l'émission Les Racines du Ciel sur France Culture, où Patrick Viveret était accueilli ce dimanche 1er janvier. Une bonne année et une bonne santé, ça se fabrique. Et d'abord en activant son propre cerveau. À bientôt.
Bonjour, c'est Christine de Nîmes. Bonne année à toute l'équipe de là-bas si j'y suis. Continue à nous agrandir les oreilles, qui ne sont jamais bien loin de nos cerveaux. En ce début d'année, et si vous preniez la résolution de participer au repère de là-bas si j'y suis de Nîmes, au précédent repère, au mois de décembre, nous avions François Ruffin qui est venu nous animer une conférence sur leur grande trouille. Sachez que notre première rencontre de 2012 aura lieu ce mercredi à 19h au bar des Romblas, face à la poste Gambetta.
Mais pour moi, cette odeur de pétrole, qui avec la fumée qui s'échappait de la machine, s'était tant de fois évanouie dans le Palazur, par ces jours brûlants où j'allais de Saint-Jean-de-la-Haize à Gourville, comme elle m'avait suivie dans mes promenades pendant ces après-midi d'été, pendant qu'Albertine était à peindre, elle faisait fleurir maintenant de chaque côté de moi, bien que je fusse dans ma chambre obscure, les bleuets, les coquelicots et les trèfles incarnats. Elle m'enivrait comme une odeur de campagne, non pas circonscrite et fixe, comme celle qui est apposée devant les aubépines et retenue par ses éléments onctueux et denses, flotte avec une certaine stabilité devant la haie, mais une odeur devant quoi fuyaient les routes, changeaient l'aspect du sol, accouraient les châteaux, pâlissait le ciel, se décuplait les forces, une odeur qui était comme un symbole de bondissement et de puissance, et qui renouvelait le désir que j'avais eu à Balbec de monter dans la cage de cristal et d'acier. Ah, commencer l'année avec Marcel Proust.
Alors là, Daniel, on n'est plus à Paris, on est à Villeneuve-d'Ascq, près de Lille, et on vient rencontrer Jean Gadré, un professeur d'économie, l'homme par qui le scandale est arrivé, puisque sur son blog d'alternatives économiques, il a publié un papier intitulé « Les liaisons dangereuses », où il pointait les liens entre un certain nombre de ses collègues, Christian de Boissieu, Jean-Hervé Lorenzi, Olivier Pastret, Daniel Cohen, les plus en vue de ses collègues dans les médias, au Conseil d'analyse économique, et où ils pointaient leurs liens avec les milieux d'affaires, avec les banques, et qu'un professeur d'économie reconnu par ses pairs publie un tel papier sur ses collègues, ça a soulevé un tollé. Donc on va rencontrer ce dangereux délateur.
Salut, c'est Daniel Mermet, c'est là-bas si j'y suis, avec François Ruffin, les économistes de garde.
Flight number 2, arriving from New York.
Monsieur Gadré, vous êtes un prof d'économie à la retraite.
Oui.
On est chez vous, on n'est plus à Paris, on est à Lille. Vous avez entre les mains la brochure que je vous ai ramenée du 13e journée du livre d'économie. Vous, monsieur Gadret, vous êtes un vilain délateur. Parce que là, on voit marqué Daniel Cohen, professeur d'économie à l'école normale, c'est ça ? Jean-Hervé Lorenzi, président du Cercle des économistes. Ouais. Et vous êtes un mauvais camarade. Vous avez dénoncé méchamment vos confrères.
Oui, alors je me suis mis à faire ce que n'importe qui peut faire. C'est-à-dire essayer de trouver sur le net des informations sur les fonctions exercées par les membres du Conseil d'analyse économique. J'ai pris les deux plus importants, omniprésents dans les médias, Christian de Boissieu, qui est d'ailleurs le président du Conseil d'analyse économique, et puis Jean-Hervé Lorenzi, qui est le président du Cercle des économistes. Et en croisant les informations, en faisant un travail de journaliste d'investigation amateur, en quelque sorte, je suis arrivé à quelque chose qui m'a beaucoup impressionné. Et donc j'ai listé. Ce qui est frappant, c'est que lorsqu'on les présente, soit dans cette brochure que vous m'avez apportée sur la 13e journée du livre d'économie, soit à la télévision, où ils sont omniprésents, ou sur certaines chaînes de radio, on les présente comme étant des économistes, et des économistes réputés, avec leurs titres universitaires, avec leurs titres académiques. Peut-être que les gens se mettraient à réfléchir deux fois si on leur disait que, par ailleurs, Christian de Boissieu préside la commission des activités financières de la Principauté de Monaco, quand même un authentique paradis fiscal, préside le conseil scientifique de COE Rexecode, qui regroupe près de 80 entreprises représentant 1 900 milliards d'euros à la fois dans le secteur industriel et dans le secteur bancaire, conseiller économique d'un fonds spéculatif, un hedge fund, etc., etc. Et de même, les gens seraient-ils amenés à se poser des questions sur l'indépendance de l'analyse de la finance de quelqu'un comme Jean-Hervé Lorenzi, dont la liste est encore plus impressionnante. Il est dans les conseils de surveillance ou d'administration d'un nombre inimaginable d'entreprises, du secteur minier ou des assurances. C'est quelqu'un qui assure beaucoup.
Bonsoir à tous, bienvenue dans l'invité de l'économiste. La flambée des prix du blé, du riz et du maïs ont provoqué des émeutes. Pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir Christian de Boissieu, président du Conseil d'analyse économique auprès du Premier ministre et professeur d'économie à Paris 1, la Sorbonne. Bonsoir.
Bonsoir.
Merci beaucoup d'être avec nous. Retour sur le plateau de la semaine de l'Écho avec Daniel Cohen, professeur d'économie à l'École normale supérieure, et Christian de Boissieu, président du Conseil d'analyse économique.
Jean-Hervé Lorenzi, président du Cercle des économistes.
Christian de Boissieu, bonjour.
Bonjour.
Président du Conseil d'analyse économique.
Bonjour à tous. On va décrypter les objectifs de la présidence française avec l'économiste Christian de Boissieu.
Dans quelques minutes, on poursuit sur le même sujet, mais avec l'économiste Jean-Hervé Lorenzi. Bonjour.
Bonjour.
Économiste, président du Cercle des économistes. Vous êtes de ceux qui pensent qu'une sortie de l'euro serait sans doute la pire des choses.
Voilà, et pour décoder ce dossier, nous a rejoint sur ce plateau Christian de Boissieu. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes le président du Conseil d'analyse économique. Alors, au début de la crise...
Alors voilà, là vous avez compris. Là, cette fois, c'est les économistes dont il est question. Les économistes et leur liaison dangereuse. On va, dans les jours prochains, voir au cinéma les nouveaux chiens de garde. Dans les nouveaux chiens de garde, on verra les liens qui existent avec... une partie des acteurs, des médias et le pouvoir des mots apparus et ont fait fortune dans ce domaine. La médiacratie, les éditocrates, les chiens de garde, c'était un livre de Paul Nizan qui, lui, s'en prenait aux visait les intellectuels dans leur lien avec le pouvoir. Intellectuels liés avec le pouvoir, médias liés avec le pouvoir politique. Et là, les économistes, ces économistes de plateau, de télévision ou de radio, ils sont très très peu. Ils tournent comme ça, ils vont d'une radio à l'autre, d'un plateau à l'autre, pour dispenser leur science, leur savoir, leur... leur vision des choses. Ils se trompent très, très, très souvent, mais c'est pas vraiment des erreurs, c'est plutôt le vent qui tourne, des événements absolument imprévisibles qui viennent les obliger à revenir pour expliquer à nouveau comment ça va se passer. Mais ce que la plupart oublient de dire, et ce qui les présente oublient de préciser, c'est les liens qu'ils ont, pour certains d'entre eux, avec, on vient de le dire, avec les banques, avec le business, avec les affaires, avec l'économie financiarisée, ce qui n'est pas dit quand on les présente. Et ça, ça a beaucoup intéressé Jean Gadret, qui lui-même, on vient de le dire, est économiste, et il a intitulé un article « Les liaisons dangereuses ». C'est-à-dire qu'il a dénoncé ces liens entre ces économistes et ces milieux, et tout ce que ça peut quand même avoir comme influence sur leur vision des choses, en bref, sur l'idéologie qu'ils font passer à longueur de journée dans nos pauvres petites oreilles et dans nos pauvres petits cerveaux. C'est jusqu'à 16h, c'est là-bas si j'y suis, économiste de garde.
Votre procédé, monsieur Gadret, il y a un parfum d'année 30.
Alors, monsieur Jean-Hervé Lorenzi, vous êtes à la compagnie financière Edmond Rothschild, membre du conseil de surveillance de la compagnie financière Saint-Honoré, conseiller du directoire de la compagnie financière Edmond Rothschild, membre du conseil d'administration Eramet, groupe minier métallurgique, c'est ça?
Oui, mais personnalisé, je trouvais que ça avait des parfums un peu des années 30. On discute économie et pas des individus.
C'est effectivement ce qu'il m'a répondu.
C'est ce qu'il m'a dit aussi, c'est vrai. Oui, des attaques ad hominem.
Effectivement, des attaques ad hominem. Alors, simplement, si le fait de mettre noir sur blanc des fonctions parfaitement officielles est considéré comme de la délation, je me demande où on va.
Voilà. Oui, vous vous souvenez, hier, vous qui avez les oreilles si fines, ce monsieur Lorenzi disait « Oui, mais non, il ne faut pas parler de moi », parce que François Ruffin lui disait « Mais enfin, vous êtes dans tel conseil d'administration, vous travaillez avec telle banque, telle... Oui, mais non, ne parlons pas de ça, ça c'est des affaires personnelles, et on l'évoque tout de suite, on sort le parfum des années 30, les attaques ad hominem. » Et évidemment, c'est quelque chose que Jean Gadret, leur collègue, n'a pas respecté.
Et donc, voilà, la question qu'on peut se poser comme citoyen, c'est de se dire quel peut être le degré d'indépendance intellectuelle, d'analyse de ces gens-là, qui sont complètement insérés dans les réseaux des milieux d'affaires, lorsqu'on leur demande par ailleurs d'émettre des diagnostics et des préconisations en matière de régulation de la finance. Est-on dans une situation différente d'un expert d'une entreprise pharmaceutique, Servier par exemple, qui serait invité à participer à un organisme public chargé de mettre sur le marché des médicaments? Moi, je pense que la situation est tout à fait semblable. Lorsque des économistes, si prestigieux soient-ils sur le plan académique, sont membres de conseils d'administration, de direction, de surveillance, de banques, de sociétés d'assurance, de fonds spéculatifs, de principautés de Monaco, etc., alors leur intervention dans des organismes publics chargés, si je puis dire, de mettre sur le marché des solutions politiques à la crise financière est authentiquement problématique et aussi problématique que l'intervention d'un expert de Servier dans une agence chargée de la mise sur le marché des médicaments.
L'heure est aux vacances et à la détente à Aix-en-Provence, cette charmante ville du sud de la France. Pourtant, certains s'y sont rejoints pour travailler.
Euronews, 14 juillet 2011.
Chaque année, le cercle des économistes, composé d'universitaires, de politiques et de chefs d'entreprise, se réunit ici durant 3 jours. Des étudiants s'invitent aussi à cette conférence d'été dont l'objectif est d'activer le débat économique à l'échelle mondiale. Le thème cette année, le monde dans tous ses états, ou quel pourrait être le futur rôle des états en période d'après-crise. Eux qui, pendant la crise, sont intervenus massivement pour éviter une faillite du secteur financier, en frôlant chacun de peu la banqueroute.
Bonjour, vous êtes en relation avec le Standard de Matignon. Votre appel a été pris en compte. Merci de...
Matignon, bonjour.
Oui, bonjour. Excusez-moi de vous déranger. Je suis François Ruffin. Je suis reporter pour l'émission Là-bas si j'y suis sur France Inter. Et je fais un reportage, en fait, sur les connivences entre les financiers et les politiques. Et je chercherai à avoir des informations sur la composition du Conseil d'analyse économique présidé par François Fillon.
Un instant, je vous prie.
Je vous remercie. Alors, Daniel, le Conseil d'analyse économique est supposé éclairer les choix du gouvernement en matière économique.
Presse, bonjour.
Oui, bonjour. Excusez-moi de vous déranger. En fait, je fais un peu une enquête sur les liens entre financiers, économistes et puis politiques. Je regardais la composition du Conseil d'analyse économique qui est présidé par François Fillon, par le Premier ministre François Fillon, et qui est supposé éclairer les choix du gouvernement en matière économique. Il est co-présidé par Monsieur de Boissieu, qui lui-même est banquier chez Neuflize, par Jean-Hervé Lorenzi de la banque Rothschild, Patrick Artus est chez Natixis, Jean-Paul Bedbèze est au Crédit Agricole. Il y a d'autres personnes de la banque Lazare, une personne qui a son propre hedge fund, de la Société Générale, de HSBC, ainsi de suite. Et donc je me demandais comment ça se faisait qu'on trouve autant de personnes liées aux banques dans le Conseil d'analyse économique du Premier ministre. Et est-ce qu'avec de tels conseillers, on va remettre en cause le poids de la banque et de la finance en France, quoi.
D'accord. Alors, je vais vous donner notre adresse mail.
Je vous remercie beaucoup, madame.
Bon après-midi et bonne année à vous, monsieur.
Merci, au revoir.
Le cercle des économistes, c'est un nom qui est bien fait. Parce que cercle des économistes, on a l'impression que c'est un truc universitaire, presque public, et que c'est en gros les meilleurs économistes de France qui se sont regroupés, alors qu'en fait, c'est une association privée, avec au moins la moitié de leurs membres qui travaillent pour des banques privées.
Alors voilà, c'est ça toute l'ambiguïté. Ils se présentent sur leur site comme étant un cercle acteur majeur du débat économique français, composé de 30 membres, tous universitaires. En tout cas, ils sont présents quotidiennement sur Radio Classique, tous les jeudis dans Les Échos. Ils remettent tous les ans, en partenariat avec Le Monde Économie, le prix du meilleur jeune économiste. Et puis, etc., ils organisent des rencontres économiques d'Aix-en-Provence, ils organisent des colloques avec le New York Stock Exchange, c'est-à-dire la bourse, etc. Donc, ils sont très influents.
Juste un exemple, au lendemain du dernier sommet européen, alors maintenant, on a un sommet européen par semaine, donc ça devient un peu compliqué à suivre, mais au lendemain du dernier sommet européen, c'est Jean-Hervé Lorenzi qui a intervenu dans le 7-9 de France Inter en tant que président du Cercle des économistes. Le samedi matin, à la veille du G20, dans On n'arrête pas l'écho, on avait Mathilde Lemoine du Cercle des économistes, qui elle était chez HSBC. Et le lundi soir, on avait, pour tirer les conclusions du G20, dans Le téléphone sonne sur France Inter, Jean-Hervé Lorenzi, président du Cercle des économistes.
C'est tout le temps comme ça. Hein. Et dès qu'il y a un événement et qu'il faut les commenter, les grandes rédactions des grandes chaînes et leurs grands journalistes avec leur cercle, leur réseau de connivence, se précipitent toujours sur les mêmes. Alors, pour en revenir au cercle des économistes et à ses 30 membres, Jean-Paul Bedbèze est chef économiste et directeur des études, membre du comité exécutif de Crédit Agricole. Il a été antérieurement membre de la commission économie du MEDEF et de l'UNIS. Alors ça, l'UNIS, l'Union des Confédérations de l'Industrie et des Employeurs d'Europe, c'est le plus gros lobby présent à Bruxelles lorsqu'il s'agit de faire modifier en sa faveur toute une série de réglementations sur la chimie ou sur d'autres choses. Autre profil intéressant, Laurence Boone, qui est chef économiste chez Merrill Lynch, américain, s'il vous plaît, mais membre du conseil d'administration de Pinault Printemps Redoute, ce qui ne l'empêche pas d'enseigner à l'école normale supérieure de Cachan, etc. Les casquettes, il est indispensable pour que ces idées se répandent d'exercer plusieurs casquettes. Librairie, édition de livres, intervention dans les médias.
Alors avec nous sur ce plateau, l'économiste Jean-Hervé Lorenzi, bonsoir.
Bonsoir. Jean-Paul Bédvez, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes économiste. Alors 2010 sera-t-elle l'année de la fin de la crise ?
C'est l'année où ça commence à s'améliorer.
Let's cross live now to London. Lawrence Boone is the head of European Economics at Bank of America. Good afternoon. Thank you very much for joining us.
My pleasure.
Et pour aller plus loin, sans détour, je reçois Jean-Hervé Lorenzi. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes président du Cercle des économistes, un cercle de réflexion.
Jean-Paul Bédvez, notre invité du jour. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes directeur des études économiques du Crédit Agricole et puis l'auteur de ce livre 2011, La France, à qui tout double.
Cette année-ci, il faut vraiment faire de l'économie, il faut vraiment décider, parce que dans quelques mois, on va faire que de la politique. Et si dans les mois qui arrivent, on ne dit pas qu'est-ce qu'on veut faire vraiment en économie, on va faire que de la politique, on va oublier le réel. Donc c'est plus compliqué, c'est plus difficile, et notre tendance à faire de la politique, malheureusement, elle peut être plus forte que d'habitude.
Lawrence, thank you for joining us. Lawrence Boone in London for Bank of America. Thank you.
Autorité des marchés financiers, bonjour.
Oui, bonjour, excusez-moi de vous déranger. Je suis François Ruffin, je suis reporter pour France Inter. J'aurais voulu poser des questions sur la composition du conseil scientifique de l'autorité des marchés financiers.
Alors oui, je vais vous mettre en relation avec le service.
Je vous remercie.
Barbara Frugier.
Oui, Madame Frugier, François Ruffin de France Inter. J'avais lu la déclaration de Jean-Pierre Jouyet, le président de l'autorité des marchés financiers, qui parlait d'une dictature de fait des marchés et qui pensait que les citoyens se révolteraient contre ça. Je regardais la composition du conseil scientifique de l'autorité des marchés financiers.
Oui.
Dans lequel il y a un certain nombre d'économistes de banques. Alors, il y a Patrick Artus de Natixis, Olivier Davanne de DPA Invest, Olivier Garnet de la Société Générale, Ruben Lee de Oxford Finance Brooks, ainsi de suite. Et enfin, on a Christian de Boissieu, par exemple, qui travaille lui-même pour un certain nombre de banques. La banque Neuflys, qui est conseiller d'un hedge fund, c'est pas mentionné dans sa fiche sur l'AMF. Et donc, c'était pour demander si finalement, quand on parlait de la dictature de fait des marchés, elle n'avait pas cours également dans ce qui est supposé être le gendarme des marchés, qui est l'AMF.
Ce que je peux vous indiquer, c'est que d'abord, le conseil scientifique est un organe totalement consultatif. L'idée, c'est d'alimenter le régulateur en réflexion académique sur des sujets qui nous préoccupent ou qui nous concernent. Donc voilà, c'est peut-être, je pense, un peu fort l'approche que vous faites là. Ce sont des gens qui, c'est un pont qu'on a avec le monde académique.
Mais là, vous parlez du monde académique. C'est pas seulement le monde académique. Là, c'est le monde des dirigeants de banque.
Enfin, ce ne sont pas des dirigeants de banque, ce sont des universitaires. Ils ont tous des formations d'universitaires au départ.
Ça n'empêche pas d'être dirigeant de banque, comme Olivier Pastré, par exemple, qui est même administrateur de l'association des dirigeants de banque.
Mais je ne vois pas où vous voulez en venir, en fait. C'est normal, à mon avis, qu'on se renseigne auprès de ceux qui ont l'expertise.
Mais par exemple, si le conseil scientifique de l'autorité des médicaments est truffé de gens des labos pharmaceutiques, ça pose problème.
Oui, mais écoutez, moi, je ne connais pas l'industrie pharmaceutique. Nous, en tout cas, c'est vraiment un organe purement consultatif. Il n'y a aucun aspect décisionnaire de leur part. Et je trouve que c'est bien d'ailleurs qu'on ait des académiques, parce qu'on ne peut pas s'isoler.
C'est toute l'ambiguïté. On parle toujours des académiques qui sont dans les médias et ainsi de suite. Quand ces académiques sont également dans des banques, l'avis qu'ils donnent, qui oriente le débat économique, qui oriente éventuellement un certain nombre d'institutions, c'est pas complètement neutre quand leur salaire provient essentiellement ensuite de ces banques. Ils vont pas être dans l'hyper-régulation, dans le désir de nationaliser les banques et ainsi de suite.
C'est des gens qui ont une formation universitaire et ils ont une spécialité qui est celle de la finance. Après qu'ils aient des fonctions dans des banques ou dans des institutions financières, ça me paraît naturel. Moi, je trouve qu'il ne faut pas stigmatiser sur ça.
Je vous remercie beaucoup, en tout cas.
Écoutez, je vous en prie. Au revoir. Bonne journée.
T'as entendu la dame de l'AMF, la dame de l'autorité des marchés financiers. Il y a un adjectif qui revient plusieurs fois dans sa bouche, c'est naturel. Il est naturel que des académiques travaillent pour les banques et il est naturel que ces universitaires qui travaillent pour les banques soient conseillers de l'autorité des marchés financiers. Tout cela est naturel.
La salle se vide, on vient de clôturer. Encore 10 points perdus, les petits porteurs font chier. L'économie pourrie, y'a des rendements de fiance. Un jour le caca sort, un jour le caca rend.
C'est moche de voir comme ça fout le camp les technologiques
et les cotations des plus grands. J'parle même pas de Vivendi.
Toi qui as un travail, pense à ceux qui n'en ont pas.
Nous, on a que la spéculation pour boucler les fins de mois. Et c'est pas facile, hein, des fois.
C'est moche de voir le World Trade Center.
Et que le seul communiste s'en livrait un me jette la première pierre.
Tu crois pas qu'on en a plein le cul de voir les bourses se vider? Il faut une vraie réforme sociale qui exonère les bénéfices boursiers. On a un gouvernement de droite, oui ou merde.
Ce qui est intéressant, c'est pas le rôle de balance, c'est le rôle de mise en lumière de fonctions que l'on tient cachées parce qu'on sait que cela nuirait à l'expression politique publique de ces gens-là lorsqu'ils s'adressent dans les médias au nom de la science économique. Plus personne ne croirait que seule la science économique est invoquée dans leurs propos. Alors d'ailleurs, la liste est longue de leur bourde monumentale en matière de diagnostic sur la crise. Les Christian de Boissieu, les Jean-Hervé Lorenzi, les Olivier Pastré, les Eli Cohen, les Daniel Cohen, enfin ceux qu'on voit à la télé parmi les économistes universitaires ou académiques, n'ont eu de cesse de nous dire en 2008, et parfois même quelques semaines avant le grand krach de septembre, que la crise était dans le rétroviseur. À un moment où elle ne fait que commencer, ils nous disaient « bon, ça y est, elle est sous contrôle ». Patrick Artus, qui est chez Natixis, et qui est un économiste considéré comme de haut niveau.
Qui a une tribune dans Libération.
Et le 20 août 2008, donc deux semaines avant le krach, il affirmait dans Challenge, la crise des subprimes est dans le rétroviseur. Christian de Boissieu, qui est quand même le président du Conseil d'analyse économique, disait, début 2008, les États-Unis ne devraient probablement pas connaître de récession. Jean-Hervé Lorenzi estimait, début 2008, dans le journal du Net, la zone euro ne devrait connaître qu'un léger ralentissement de l'ordre de 0,5 points. Appréciez la précision. Et il estimait, d'ailleurs, en même temps, que le rapport Attali, qui a été remis à cette époque, était réaliste et efficace pour rebooster la croissance. Donc la liste est longue des errements de ces économistes qu'on voit à la télé. Pourquoi considère-t-on qu'il y a conflit d'intérêts dans le cas des médicaments et pas dans le cas des médecines économiques délivrées par les docteurs de l'économie? Parce que ces médecines ont des effets tout à fait redoutables, sur, non pas sur la santé humaine, mais sur la santé sociale, sur le corps social. La médecine économique qui consiste à dire aujourd'hui qu'il n'y a pas d'autre solution que l'austérité est peut-être plus grave humainement en termes de dégâts que la mise sur le marché d'un médicament servier.
Alors, il y a une question qui se pose, bien sûr. Il y a ces économistes de garde, ces économistes de marché, tels qu'ils sont décrits par un économiste, lui aussi, Jean Gadret. Mais il y a les journalistes, les animateurs des émissions de radio, télévision ou de presse écrite, ou les journalistes de presse écrite, qui s'adressent à eux, qui se tournent vers eux, qui les font venir si régulièrement. Pour quelles raisons est-ce que c'est à peu près toujours les mêmes, orthodoxie néolibérale, est-ce que c'est par incompétence, paresse, connivence, opportunisme, difficile de savoir. On va se tourner vers une consoeur, excellente consoeur, qui travaille sur France Culture depuis de nombreuses années, qui est Dominique Rousset, que vous entendez sans doute le samedi matin, et qui a une émission d'économie où elle fait venir très souvent des économistes. Ça s'appelle l'économie en question, et elle a bien voulu répondre aux questions de François Ruffin.
Allô ?
Allô, Madame Rousset ?
Oui, allô ?
Excusez-moi de vous déranger, c'est François Ruffin de France Inter.
Oui, bonjour.
En fait, c'est un peu pour voir un peu quel est le poids de la finance dans l'orientation du débat économique.
Vous savez, avec les économistes que j'ai dans mon émission, hein, ils sont tous, presque tous, ils travaillent pour des banques, ou ils sont conseillers, ou Artus est chez Natixis, Atmosphère, vous voyez, c'est assez courant. Hein. C'est aussi comme ça que le monde va, et c'est bien son problème d'ailleurs, hein, c'est que... On est dans un monde un peu de confusion extrême en ce moment.
Vous citiez Olivier Passeret, qui est lui-même directeur d'une banque au Maghreb. Je ne sais pas si vous savez.
Oui, ouais. Bien sûr, je le sais, bien sûr.
Et puis Jean-Hervé Lorenzi, qui est présenté généralement comme président du Cercle des économistes.
Il travaille chez Rothschild.
Oui, et puis dans pas mal d'autres structures. Mmh. Le fait qu'il soit présenté comme étant juste des économistes, des académiques, alors qu'en fait, l'essentiel de leur salaire ou de leurs revenus, ils le tirent peut-être du monde bancaire. Est-ce que c'est pas gênant ?
Vous me demandez à moi ce que j'en pense ?
Bah oui.
C'est ça votre sujet, c'est de nous faire dire qu'en fait, les gens qui interviennent dans les émissions sont tous des banquiers, c'est ça ?
Juste en termes de transparence vis-à-vis de vos auditeurs, est-ce que ça serait pas plus franc du collier de leur dire, bah voilà, Jean-Hervé Rollerenzi, président du Cercle des économistes, et également salarié de la banque Rothschild?
Non, je vous réponds très clairement parce que ça m'arrive assez régulièrement de leur dire, vous qui êtes proche des milieux bancaires ou qui travaillez dans la banque. En l'occurrence, moi, ce qui m'intéresse dans mon émission comme professeur d'économie, pas comme banquier. Je pourrais très bien systématiquement dire Olivier Passeret, directeur de banque en Tunisie. Je me sens accusé là, mais bon.
Dans le cas de Jean-Hervé Lorenzi, si je puis me permettre, je trouve que c'est assez pervers. Le Cercle des économistes, ça fait un truc très...
On a presque oui, c'est un écran.
C'est un écran. Et je trouve ça assez efficace de venir dire président du Cercle des économistes. On a l'impression d'un mec complètement indépendant de tout.
Objectivement, c'est tout à fait vrai.
Au revoir.
Au revoir.
Voilà Dominique Rousset qui répond en toute sincérité. Alors on continue. Vous avez vu que François Ruffin est vraiment le tortionnaire des pauvres gens qui sont au standard téléphonique de certaines administrations.
Monsieur Gadret, ce que me répond Jean-Hervé Lorenzi, c'est « ça n'a rien changé à mon regard ». J'ai conservé toute mon indépendance. Même si je suis payé par la banque Rothschild et par deux, trois autres trucs, et Eramet, les assurances, et ainsi de suite, moi, je suis un homme indépendant.
Honnête. C'est leur ligne de défense.
Je suis un chief économiste dans une banque.
Jean-Hervé Lorenzi.
Qui est une banque de gestion d'actifs, donc qui n'a rien à voir avec les sujets de l'euro. J'ai pris des tas de positions. Je n'ai pas de conflit d'intérêt.
Vous pensez qu'il n'y a pas de conséquences sur les conseils d'administration au siège, les banquiers éventuellement qu'on rencontre, les dirigeants de groupe ?
Pour moi, non.
Leur insertion dans les milieux bancaires d'affaires spéculatifs, il faut bien le dire, serait, selon eux, un gage de leur expérience, de leur compétence, voire de leur indépendance. Il me semble qu'ils ignorent le fait que lorsqu'on passe son temps à naviguer dans des réseaux de milieux d'affaires, n'importe quel d'entre nous qui ne serait pas influencé par l'ensemble des réseaux sociaux auxquels il participe. Je veux dire, c'est nous pensons certes de façon indépendante, mais dans une interdépendance vis-à-vis de nos proches, de notre famille, de nos réseaux professionnels. Et s'ils passent leur temps à naviguer dans ce type de milieu, alors, ils seront nécessairement, parce qu'ils sont dans la banque, parce qu'ils sont dans l'assurance, parce qu'ils sont dans les fonds de pension, parce qu'ils ont des amis dans ces milieux, ils sont portés
quasiment naturellement, mais en fait c'est un fait social, à considérer que les marchés financiers sont nécessaires. On ne peut pas attendre d'eux qu'ils nous disent « mais il faut arraisonner les marchés financiers ». Et on ne peut pas attendre d'eux qu'ils nous disent « mais au fond, a-t-on besoin de la bourse ?» Question que pose Frédéric Lordon. Ou bien, comme le dit André Orléans, ne faudrait-il pas éventuellement faire fonctionner la bourse une fois par an pour remettre certains compteurs à zéro? On ne peut pas compter sur eux pour envisager seulement cette hypothèse. Leur système est celui dans lequel ils vivent, dans lequel ils exercent leur profession et qui, par ailleurs, quand même, je suis désolé, mais les rétribue grassement. Il y a conflit d'intérêts quand on est rétribué par un acteur majeur que l'on est supposé réguler dans une autorité de régulation publique.
Finalement, la manière dont ça fonctionne, c'est pas tant que les noms qu'on vient d'énoncer, Daniel Cohen, Jean-Hervé Lorenzi, Christian de Boissieux, soient tous d'affreux libéraux qui disent « il faut privatiser, il faut privatiser, il faut privatiser ». J'ai l'impression que la manière dont est encadré le débat économique, c'est plus subtil. C'est-à-dire que ça ne fonctionne pas avec, seulement avec les gros sabots de l'ultralibéralisme affreux, mais c'est juste comme s'il y avait un certain nombre d'interdits. Le protectionnisme, on ne peut pas avoir ce débat, ça relève de la démagogie. Sortir de l'euro, c'est une hypothèse fantaisiste. Renationaliser les banques, c'est impensable. C'est comme le cheval à des œillères. Et ben là, on met des œillères au débat économique.
Oui, le discours ultralibéral, d'une part, ne correspond pas forcément à leurs propres convictions. L'ultralibéralisme, la privatisation de tout, la libéralisation de tout, ne correspond pas nécessairement à leurs propres convictions. Et surtout, en second lieu, ceux qui les invitent, c'est-à-dire les grandes rédactions des grandes chaînes, savent aussi que ça ne passerait pas. Ils ne vont pas faire de l'audience avec de l'ultralibéralisme. Il faut aujourd'hui enrober ça. Il faut parler de la nécessité des réformes. Il faut dire que l'État dépense trop, parce qu'un bon père de famille ne doit pas dépenser trop. Il faut mettre l'accent sur les erreurs du passé, mais de préférence pas sur celles du présent. Et donc il faut des économistes qui puissent faire en sorte que ce discours, qui est celui de nos hommes politiques, accède à un certain niveau de légitimité. Ce qu'ils nous disent, en général, ces économistes à la télé, n'est pas différent de ce que nous disent les hommes politiques ou les présentateurs de JT. Mais la présence de ces économistes est calculée pour renforcer la légitimité de propos de politiques qui n'ont pas forcément la même aura. On les invite quand même aussi très largement parce qu'on peut compter sur eux pour ne pas déraper. De toute façon, ils ne diront pas de gros mots. Alors, pour ne pas déraper, sur quel thème? D'abord, ils parleront de réguler la finance, ils ne diront jamais qu'il faut ou nationaliser ou socialiser une grande partie de la sphère financière. Ils ne diront jamais qu'il faut peut-être envisager de nationaliser des secteurs que l'on a privatisés. La constante, c'est l'économie de marché libérale, les marchés financiers et la spéculation ne sont en aucun cas un problème en soi. Il faut juste quelques règles supplémentaires pour moraliser le capitalisme. Ça, c'est le fond de commerce du discours susceptible de passer à la télé et que reprennent en boucle la plupart de ses commentateurs.
Le 7-9 de France Inter. Patrick Cohen.
Jean-Hervé Lorenzi, bonjour.
Bonjour.
Économiste, professeur, président du Cercle des économistes. Vous êtes de ceux qui pensent qu'une sortie de l'euro serait sans doute la pire des choses.
La réalité, elle n'est pas si compliquée que ça. C'est si vous faisiez exploser, ce qui n'aura heureusement jamais lieu, vous reveniez au franc et à la lire, etc., on verrait que la réalité, c'est que nos dettes exploseraient. Et là, le sujet est compliqué. Si dans les mois qui viennent, nous avons des tensions sur le change, vous voyez bien qu'il y a une bagarre, par exemple, entre le dollar et le yuan. Ça n'a rien à voir avec l'euro. Est-ce que vous êtes plus fort en étant juste le franc français ou est-ce que vous êtes plus fort en étant un ensemble qui a une monnaie? Dernier sujet. Il se trouve que nous avons un marché unique. C'est un marché unique. On n'y peut rien. Il y a 360 millions de personnes qui ont un marché unique. Ça nous a permis d'ailleurs d'avoir une croissance positive. Et tout ça, au fond, est-ce que c'est aussi absurde d'avoir à la fois un marché unique et d'avoir une monnaie qui est commune ?
Bienvenue au ministère de l'économie, des finances et de l'industrie, ministère du budget, des comptes publics et de la réforme de l'État. Merci de patienter, nous allons vous répondre dans un instant.
Welcome to the Ministry for the Economy, Finance and Industry.
Bonjour Annette, à votre écoute.
Bonjour, excusez-moi de vous déranger. Je cherche à joindre le bureau de Michel Pébreau, s'il vous plaît.
Vous avez l'orthographe du nom, s'il vous plaît?
Oui, P-E-B-E-R-E-A-U.
R-E-A-U. Je n'ai pas cette personne chez moi. Elle travaillerait où, monsieur?
Auprès du cabinet du ministre.
Chez monsieur Baron. Et quelle est sa fonction de ce monsieur?
Conseiller, vraisemblablement.
Pébreau, hein?
Oui. Apparemment, il voyage régulièrement en compagnie des ministres. Il donne des conseils au moment des problèmes chez Dexia et ainsi de suite.
Moi, je n'ai pas. Je vais voir avec la secrétaire du chef de cabinet.
Ok, je vous remercie.
Bienvenue au ministère de l'économie, des finances et de l'industrie, ministère du budget, des comptes publics et de la réforme de l'État.
Voilà, Daniel, tu sais, comme... apparemment, Michel Pébreau est un invité permanent. Donc, à la veille d'un sommet à Washington, il accompagne Christine Lagarde, ancienne ministre de l'économie. Il lui délivre là-bas à Washington ses conseils à la veille du G20. Et également, il accompagne Christine Lagarde à Istanbul, puisque on lit dans Le Point qu'il se retrouve à un dîner protocolaire. Michel Pébreau est assis entre la ministre de l'économie Christine Lagarde et le président du FMI Dominique Strauss-Kahn. Et donc, il est assis entre les deux. Et en introduction de son intervention, Madame la ministre déclare aux banquiers qui sont là rassemblés « Je ne savais pas ce que vous vouliez entendre, alors j'ai demandé à Michel Pébreau. » Donc, tu vois, Daniel, avec une éminence grise comme ça, de sommet européen en G8 et G20, c'est une parole rebelle à coup sûr qu'a porté la France, qui a semé le trouble parmi les puissances de l'argent. Voilà, donc c'est pour ça qu'on appelle au ministère de l'économie directement pour savoir si on pourrait joindre Michel Pébreau. Oui.
Oui, alors on ne connaît pas au bureau du chef de cabinet.
Michel Pébreau, ça dit rien?
Non, du tout, du tout.
Ah bah mince alors. Bon.
Je viens de leur poser la question, non. Ça ne leur dit absolument, absolument rien.
Bah écoutez, je vous remercie madame en tout cas.
Je vous en prie monsieur.
Au revoir.
Là justement,
donc c'est Paris Match. Paris Match du mois d'octobre, du 2 octobre 2008. Et on a une photo à l'intérieur. Voilà, on a une double page. Je voudrais que vous nous offriez, monsieur Gadret, quelques minutes de rêve. Là, on a une double page de Paris Match. Cellule de crise à Bercy. Alors, c'était pris le mardi 30 septembre à 2h40 du matin. C'est-à-dire que Lehman Brothers vient de faire faillite. Mm-hmm. Dexia vacille. Le gouvernement français se demande ce qu'il faut faire. Et qu'est-ce qu'on a là? Je trouve que c'est beau comme un tableau de Rembrandt pour moi.
La ronde de nuit.
Tout à fait. C'est la ronde de nuit moderne. Mm-hmm. Ça mériterait d'être en 4x3 tellement, à mon avis. C'est une photo qui n'a pas été plus commentée que ça, mais qui me paraît tout à fait importante pour résumer l'époque. On a au fond Christine Lagarde qui écoute. Elle est entourée de tous les directeurs de cabinet de l'Élysée, du ministère de l'économie, du directeur du Trésor, et ainsi de suite. Il y a un homme de dos. Mm-hmm. Un homme de dos qui parle. Mm-hmm. Et que tout le monde écoute. Et on nous dit qu'il est venu faire la leçon au plus haut fonctionnaire de l'administration française. Mm-hmm. Cet homme, c'est
Michel Pébreau. De dos, je ne l'avais pas reconnu.
Mm-hmm. Michel Pébreau, président de BNP Paribas. C'est-à-dire qu'au moment où le doute s'installe, où le gouvernement ne sait plus dans quel sens tenir le gouvernail, on en appelle au PDG de la principale banque européenne pour savoir ce qu'il faut faire.
Simplement, on pourrait dire que dans un tel moment de crise extrême, ce ne sont pas les économistes universitaires qu'on appelle au chevet, c'est directement la tête pensante, la principale, de la finance en acte.
Et donc Michel Pébreau, qui est décrit comme le vice-ministre de l'économie.
Oui, j'imagine en effet que son influence à l'Élysée est telle que, dans un certain nombre de cas, elle l'emporte sur ce qui se décide au ministère de l'économie et des finances.
Alors, je vous disais, j'aimerais que vous nous offriez deux pages de rêve, deux minutes de rêve. Qui est-ce que vous mettriez, vous, en face du ministre de l'économie? Qui est-ce qui devrait avoir l'oreille du ministre?
dans vos rêves les plus fous?
Alors, dans mes rêves les plus fous, il ne s'agirait pas d'une personne, ni homme ni femme, il ne s'agirait pas d'un économiste, il s'agirait de représentants d'associations et d'ONG de la société civile, dont des associations qui, depuis 10 ou 15 ans, se battent pour une régulation authentique de la finance et pour arraisonner la finance. Autrement dit, je ne mettrais pas Frédéric Lordon à la place de Michel Pébrot. Je mettrais des représentants considérés comme légitimes par les citoyens. Et il y en a. Voilà, quel est mon rêve. Il ne correspond pas à un changement de personne.
Le rêve de Jean Gadret, qui est partagé par quand même pas mal de monde. On va revenir au salon du livre d'économie, puisque c'était ça notre point de départ. Ce salon du livre se tenait au ministère de l'économie, et la remise du prix du livre avait lieu là, et hier, dans l'émission d'hier, on a entendu des points de vue, des analyses au sujet de ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est-à-dire les liaisons dangereuses, les connivences entre les économistes et les milieux bancaires et les milieux d'affaires. Il y a un économiste qu'on a oublié hier, c'est Jacques Généreux. Jacques Généreux enseigne à Sciences Po, il est militant au Front de Gauche et il est l'auteur de nombreux ouvrages d'économie et d'un ouvrage récent qui s'intitule « Nous, on peut ».
Monsieur Jacques Généreux, donc vous êtes économiste. Alors vous êtes au Front de Gauche, je dévoile cette casquette-là. Est-ce que vous avez d'autres appartenances à des sociétés financières, à des banques, à des multinationales à déclarer?
Non, j'ai juste une banque, mais enfin c'est ma banque qui me prend des agios épouvantables à chaque fois que je suis à découvert. Donc,
vous n'êtes pas un économiste sérieux si vous n'êtes à aucun conseil d'administration d'une banque, parce qu'il faut la connaître de l'intérieur, l'économie quand même, on ne peut pas juste la connaître comme ça de l'extérieur.
Ah bah, en ce qui concerne l'économie bancaire, franchement, vous la connaissez beaucoup mieux en tant que client. Des frais financiers épouvantables, des commissions bancaires épouvantables, des débits qui vous sont débités à la seconde et des crédits qui vous sont crédités 3 jours après. Donc comme client, vous comprenez beaucoup mieux ce que c'est qu'une banque qui est au service d'actionnaires privés que si vous étiez dans le conseil d'administration. J'ai des copains qui, eux, sont associés dans des grandes banques, les conseils, participent, etc. Bah, évidemment, beaucoup vont à la gamelle, hein, qu'est-ce que vous voulez.
Alors, monsieur Jacques Généreux, quand on voit tous ces petits fils, enfin, qui peuvent être des grosses ficelles aussi, dans la manière dont se tient le débat économique, finalement, c'est pas que ça soit tout le temps le grand méchant libéralisme, mais c'est qu'on a un débat économique qui est extrêmement encadré par un certain nombre d'interdits. La nationalisation du crédit, c'est une question qui n'est pas posée. Le recours à l'inflation, voire la nécessité d'un certain protectionnisme, éventuellement la sortie de l'euro, enfin, il y a un certain nombre de questions comme ça qui ont beaucoup de mal à émerger sur la place publique. Donc, c'est pas forcément que les économistes qui sont apparus, là, Jean-Hervé Lorenzi, Daniel Cohen, c'est pas des gens qui viennent dire « il faut tout libéraliser ». Mais en revanche, c'est encadré, il y a un certain nombre de questions qui sont interdites.
Oui, on est dans une oligarchie qui s'organise pour servir ses intérêts, les intérêts des membres de cette oligarchie.
Donc ils s'organisent sur le terrain économique, qui s'organisent sur le terrain politique, mais qui s'organisent aussi pour tenir fermement le débat intellectuel.
Voilà, et alors sur la question économique, on le voit bien finalement, il y a l'acceptation d'une part de critique. Bon, des économistes réputés de gauche, c'est bien, tant qu'en réalité, en effet, ils ne franchissent pas un certain nombre de tabous que vous évoquiez. Donc, quand vous avez des économistes qui disent « pique prendre de la politique menée par Sarkozy », tout ça passe. Ils peuvent même, à la limite, l'insulter, c'est pas grave. Du moment qu'ils ne disent pas qu'il faut reprendre le pouvoir sur la finance, que le crédit doit être contrôlé par l'État, que les entreprises ne peuvent pas être dirigées que par la volonté des actionnaires, mais aussi par celle des travailleurs, des collectifs. Bref, si vous contestez le libre-échange, la libre circulation des capitaux, le pouvoir des banques, le pouvoir des actionnaires et des capitalistes dans les entreprises, vous franchissez la ligne rouge. Et donc là, vous êtes classé dans les radicaux, rêveurs, irréalistes ou fous dangereux. Il y a les économistes l'économiste bien pensant, c'est celui qui ne franchit pas un certain nombre de lignes rouges, c'est-à-dire toutes celles qui sont vraiment dangereuses, en fait, pour le système.
Voilà, vous avez compris, ne pas franchir la ligne rouge. Merci à Jacques Généreux. C'était le deuxième volet des économistes de garde. Une enquête de François Ruffin. Merci à Jean Gadret. Merci à Marthe, à Mathias, à Dominique Roussel, notre conseiller de France Culture. Le dernier ouvrage des économistes atterrés s'intitule « Changer l'économie, des propositions pour 2012 » aux éditions Les Liens qui Libèrent, qui sera en librairie le 11 janvier prochain, la semaine prochaine. Vous retrouvez toutes les informations sur le site de France Inter, à la rubrique émission « Là-bas si j'y suis » et sur le site là-bas.org, là-bas.org, et sur la page Facebook de l'émission. Sandrine Laurent et Philippe Duclos étaient à la technique aujourd'hui. Bertrand Chometon et Franck Adhérer ont réalisé cette émission assistée de Marina Touillez. Et Grigory Salomonovitch attend vos messages sur le répondeur de « Là-bas si j'y suis » au 01 56 40 37 37, 01 56 40 37 37.